Radio Okapi.
En direct de Kinshasa, il est 18h pile. Voici un nouveau journal sur Radio Okapi. Au Nord Kivu, la situation est relativement calme dans les groupements de Djomba au lendemain de l'attaque des rebelles du M23. Cependant, la peur au ventre, beaucoup de familles venues de Kikoro ont quitté la zone pour se mettre à l'abri du danger. Ici à Kinshasa, l'interplateforme de la société civile dans toute sa diversité plaide pour que 2022 soit différent de 2021. La structure encourage le président Félix Tshisekedi Tshilombo à poursuivre ses consultations populaires en province pour tâter le pouls des réalités du pays. Notre invité, c'est le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Abdulaziz Tchoye affirme que près de 7000 violations des droits de l'homme ont été documentées l'année dernière à RDC. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Madame, messieurs, bonsoir. Au micro, Pascal Masirika, mise en onde de Polydor Basunga. Ouvrons par le Nord Kivu où la situation sécuritaire dans les groupements de Djomba, territoire de Rutshuru, est relativement calme. Cependant, quelques centaines de ménages de la localité de Kikoro qui ont été attaqués par les rebelles du M23 se sont déployés vers d'autres localités plus sécurisées. Annonce faite par le chef de ce groupement à une équipe conjointe de la MONUSCO en mission dans la zone. Du 24 au 27 janvier, cette mission a évalué sur place la situation sécuritaire avec les acteurs locaux et les chefs coutumiers. Pour en parler, Denis Lukelso nous appelle de Djomba.
D'après le chef de groupement de Djomba, Jackson Katsuki, depuis les trois dernières attaques des présumés rebelles du M23 en novembre dernier, l'armée a renforcé sa présence dans la région. Il note également la présence du contingent de la MONUSCO dans la région pour assurer la protection des populations civiles. Une présence qui rassure selon lui.
Et pour le moment, il y a toujours du calme partout. Mais néanmoins, c'est vrai, il y a quelques psychoses au niveau du village Kikoro. Mais j'espère que les forces de sécurité sont en train de s'y mettre pour que la population vive paisiblement.
Les habitants de la localité de Kikoro, la plus touchée par ces attaques, vivent cependant toujours la peur au ventre. Ces populations estimées à plus ou moins 500 ménages sont toujours en refuge depuis environ 3 mois maintenant à Gisiza et Nyarubara. D'autres encore sont dans des camps en Ouganda. Ils disent craindre d'éventuels affrontements entre l'armée et les rebelles, leur localité n'étant pas totalement pacifiée, a déclaré le chef de cette localité, Théophile Ndiziyiwi. Les populations de Djomba demandent aux autorités de renforcer la présence de l'armée dans la région de Tchanzu et Runoni et de bien l'équiper afin de consolider ses positions stratégiques, la menace de l'ennemi étant toujours perceptible. Depuis Kiwanja, dans les Rutshuru, Denise Luquet sur Radio Kapi.
Manifestation des jeunes de Beni contre l'état de siège au Nord Kivu. Jonas Kasimba, notable de cette ville, appelle ce jeune manifestant à l'apaisement, estimant que la solution à leurs revendications trouvera certainement une solution par le dialogue. Il les invite par conséquent à ne pas céder à la manipulation. Il a été joint par Marc Marofimbo.
Aujourd'hui, nous pouvons manifester que l'état de siège soit levé, c'est bien. Mais il faut dire que l'état de siège ne peut pas être levé parce que le pouvoir a échoué. Parce que le pouvoir n'est pas appelé à échouer. Le pouvoir est là pour garantir la sécurité et rétablir l'ordre public. Je dis que, au lieu de dire qu'on doit lever l'état de siège, il faut peut-être proposer autre chose. Et non dire que non, l'état a échoué, et donc, comme l'état a échoué, il faut lever l'état de siège. Non, ça ne va pas passer ici à Kinshasa. Parce que quand le chef a décidé que l'état de siège soit restauré, c'était avec l'idée qu'on devait mettre fin à cette insécurité et rétablir l'autorité de l'état. Et donc, le chef ne va pas reculer sur ça, qu'on ne vous trompe pas. Il faut peut-être proposer autre chose qui s'ajoute sur la pensée du chef. Que les jeunes ne se laissent pas manipuler. S'il y a des propositions à faire, il faut proposer autre chose à l'État. Et non se lancer dans la voie publique sans proposer quelque chose qui améliore la situation sur le plan sécuritaire.
Jonas Kasimba salue la libération des manifestants qui ont été arrêtés lors des échauffourées de lundi et mardi dernier à Beni. Montée du prix de transport en commun dans la région de Kamandi au sud du territoire de Lubero, Nord Kivu. Le président de la société civile locale affirme à Radio Okapi que cette hausse fait suite à l'augmentation du prix du carburant dont le litre coûte 3500 francs congolais contre 2000 francs congolais d'il y a quelques jours. Sami Sakoumi a été joint par Grace Amzati.
Comme le prix Kamandi JT Kamandi Lake qui coûtait 5000 francs, mais actuellement nous sommes en train de payer 9000 à 10000 francs. Le prix de la moto Kita Kamandi JT jusqu'à Kirumba, là on payait 3000 francs, mais actuellement nous commençons à payer 6000 à 7000 francs. Nous avons posé la question aux motards pourquoi ils ont haussé le prix. Ils évoquent des motifs en disant que ces derniers temps il y a augmentation aussi du prix des carburants. Ceux qui sont beaucoup affectés, ce sont les agriculteurs, surtout qui travaillent dans le graben, au mal à évacuer leurs produits champêtres, du graben jusqu'à aux grandes agglomérations, par exemple, Kirumba, Kaina, Kanyabayonga, et surtout que nous sommes dans une période de récolte, ils sont en train de payer sur un sac de haricots de 110 kilos, ils payent 15 000 francs, et des commandes là jusqu'à Kamandi Jite. Encore des commandes Jite jusqu'à Kirumba, ils payent 7 000 francs. C'est pourquoi nous appelons notre gouvernement de faire ce qu'il peut faire pour voir comment les prix des carburants peuvent diminuer.
En réaction à cette préoccupation, le président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Boutembo Lubero, Polycarpe Ndivito, parle de la rareté du carburant suite à la baisse de la production du pétrole dans une raffinerie du Kenya voisin. Voilà qui nous amène maintenant au sud Kivu où la menace de coupure qui pèse ce jour-ci sur la route nationale numéro 5 dans les escarpements de Ngomo risque d'avoir des conséquences néfastes si rien n'est fait. La réhabilitation de cette route nécessite de gros moyens sur ce tronçon d'environ 55 km entre la ville de Bukavu et Kamanyola. À Bukavu, c'est une correspondance d'Emmanuel Elmajua Kabedi.
La route nationale numéro 5 qui relie la ville de Bukavu à celle de Lubumbashi est longue d'environ 1356 km. Le tronçon le plus dangereux et le plus menacé se situe entre Bukavu et Kamanyola sur 55 km dans les escarpements d'Engomo. Et pourtant, la RN5 avait été prévue pour réhabilitation dans le programme de 5 chantiers de l'ancien régime. Un financement de plus de 55 millions de dollars avait été retenu pour les bitumages de 55 km entre Bukavu et Kamanyola. À ce jour, seuls 10 km des routes sont asphaltées. La compagnie chinoise dit attendre le décaissement des fonds pour poursuivre avec les travaux. Un jour sans trafic sur la RN5 entre Bukavu et Kamanyola, c'est la ville de Bukavu qui est isolée. Les produits et passagers en provenance des frontières de Kamanyola avec le Rwanda, de Kavimvira avec le Burundi et du port lacustre de Kalundu à Uvira devront transiter par le Rwanda pour revenir à Bukavu. Un manque à gagner inestimable. Emmanuel Elamijua Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Dans le même chapitre, notez que le trafic sur la rivière Inkissi dans le territoire de Madimba a été suspendu en 2020. Ceux qui s'y aventurent le font dans la clandestinité, selon le ministre provincial des Transports et Voies de Communication du Congo central, après le chavirement d'une pirogue hier jeudi. Riki Ndamba Musunda appelle le responsable de l'antenne du ministère des Transports et Voies de Communication à Kisantu à empêcher toute traversée. C'est clandestine. Amatadi n'en a plus riche bambou.
Selon Rubas Makengo, chef d'agglomération de l'Infou, le corps d'une seule personne sur les quatre disparus a été découvert ce vendredi. Ces victimes, originaires des villages situés sur la rive droite de la rivière Inkissi, soit vers les territoires de Mbanzangungu, s'est rendu au beach de Kinsiensi dans les secteurs de l'Infou pour les échanges commerciaux, a déclaré la même source. Les chefs d'agglomération de l'Info affirment que la pirogue avait heurté un morceau de bois mort dans la rivière et cela a créé un déséquilibre qui a amené au chavirement de la pirogue. Face à ces drames, le ministre provincial des Transports et Voies de Communication qui affirme que cette embarcation était clandestine rappelle les réglementations en matière de transport fluvial. Rikinda Mbamusunda.
Toute voie navigable ne peut être exploitée qu'après avoir été balisée. Toute unité flottante ne peut naviguer qu'après avoir été préalablement enregistrés, il est important d'attester que...
Suite à ces activités illicites de certaines unités flottantes sur cette voie et face à plusieurs cas de noyades enregistrés, Rikinda Mamusunda promet de diligenter une mission pour que les services de transport puissent se rendre compte de la situation afin que les exploitants récalcitrants subissent des sanctions exemplaires. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Revenons ici à Kinshasa où l'interplateforme de la société civile appelle les autorités de la RDC à tout mettre en œuvre pour que l'année 2022 soit différente de 2021. Dans une déclaration faite à la presse hier jeudi après-midi, les membres de cette structure citoyenne encouragent le président Félix Tshisekedi Tshilombo à poursuivre sans relâche ses consultations populaires dans toutes les provinces du pays. Le compte-rendu de Jacques-Yves Molimain.
S'y pencher en effet pour trouver des solutions idoines, et Cathy Kalanga, présidente de la plateforme, d'énumérer ces vraies questions.
La déserte en eau potable, en électricité, la question de l'éducation, la paie des fonctionnaires, militaires et autres catégories sociales, les problèmes de transport, de la santé.
Pour ce faire, elle recommande au Parlement
d'accorder un pourcentage considérable au budget alloué aux services sociaux de base, je cite éducation, santé, eau, électricité, infrastructures, etc.
Quant à ce qui concerne les élections prochaines, elle demande au chef de l'État
de suivre de près, en tant que garant du bon fonctionnement des institutions du pays, le processus électoral de manière à ce que la CENI respecte l'échéance de 2023, piste des solutions qui contribuent à la bonne marche du pays.
La plateforme demande par ailleurs à la communauté internationale d'appuyer le gouvernement dans ses efforts pour le rétablissement de la paix et l'accompagner dans son programme de développement.
Merci Jacques-Yves Molima pour ces précisions. Et puis nous apprenons aujourd'hui que 26 000 têtes de bétail ont été volées par des hommes armés ces 5 dernières années dans les territoires d'Irumu en Ituri. Annonce faite hier par l'ONG Assiar au cours d'un atelier de 2 jours organisé cette semaine à Kasseni, localité située à 45 km au sud de la ville de Bounia. Selon cette structure, cette pratique bloque l'élevage qui constitue l'une des principales activités génératrices de revenus dans la province de l'Ituri. Un comité de pilotage a été mis sur pied pour sensibiliser les uns et les autres à lutter contre ce phénomène. À Bounia, Martial Kizabiamungu.
L'Ituri, dans les années 90 et 2000, était considéré comme un grand centre de production de cheptel. Bounia Viande, c'était la dénomination du chef-lieu de cette province, ce qui était alors un district de l'ancienne province orientale. Avec plus de 40 000 têtes de bêtes, la viande de l'Ituri approvisionnait Kisangani, Beni, Boutembo, Kinshasa et d'autres localités. Aujourd'hui, à cause de la persistance de groupes armés, cette richesse semble disparaître. Des vaches sont soit volées, soit tuées par des hommes en armes. Pour l'ONG Assiar, cette pratique qui a déjà fait disparaître plus de 26 000 têtes de bétail en espace de 5 ans doit cesser. Eric Mongo, son coordonnateur, propose quelques pistes de solutions pour mettre fin à cette pratique.
Le programme PDDRCS comme objectif d'éradiquer le groupe armé. Nous avons mis en place un comité de pilotage qui va se charger un peu à essayer de mener un travail de plaidoyer. D'abord, plaidoyer auprès des autorités locales, les autorités militaires.
Par perte de groupes armés, plusieurs éleveurs avaient délocalisé leur cheptel vers Iziro et Bouta dans les provinces du Haut et Bazouélé. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, en ce jour au Kasaï central, le représentant de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour la protection de l'enfance, à RDC, a visité hier jeudi l'école primaire Lungenya dans le village de Chingana, situé à 45 km de la ville de Kananga. Des salles de classe sont construites avec l'appui de cette agence onusienne. Reportage à Kananga de François Kadima.
Ce projet de construction de salles de classe équipées est exécuté par l'ONG Social Development Center, SDC, avec l'appui de l'UNICEF. L'école primaire Lunyenga, parmi celles visitées, sera prête avec de nouvelles infrastructures modernes au mois de février, a indiqué le directeur pays de cette structure. José Oudendaye parle de l'approche mise en marche pour la réussite de ce projet.
Les salles de classe certainement seront équipées en table banc ainsi qu'en tableau et aussi, si possibilité il y a, il y aura aussi un petit bureau pour les directeurs. C'était une école qui était pratiquement inexistante du point de vue infrastructure. Appui UNICEF. Nous avons pensé y aller avec l'approche systémique communautaire. Et ça veut dire que la communauté apporte l'essentiel de son pouvoir.
Du côté de l'UNICEF, l'on souhaite voir ces infrastructures aussitôt finies et livrées être protégées par la communauté. Edouard Beyveder est le représentant de cette agence onusienne en RDC.
Et puis naturellement, après, dans le modèle, c'est que la communauté, le comité, continue à s'assurer que l'école est bien entretenue, qu'il y a un petit trou réparé. La communauté continue à s'engager.
Notons que l'UNICEF compte construire dans la région plus de 400 écoles modernes sur 4 ans. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Les forces françaises et européennes qui ne peuvent pas rester indéfiniment au Mali sont en train d'examiner en ce moment comment adapter leur dispositif de lutte anti-djihadiste dans la région, a averti ce vendredi le ministre français des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian a indiqué que les discussions sont en cours en ce moment avec les différents partenaires africains pour savoir comment adapter leur dispositif en fonction de la nouvelle situation au Mali. Le président russe Vladimir Poutine s'est plaint ce vendredi après-midi à son homologue français Emmanuel Macron dirigé par l'Occident de ses exigences pour aboutir à une désescalade du conflit russo-occidental autour de l'Ukraine et de l'OTAN. Dans un communiqué qui a sanctionné l'entretien des deux hommes d'État, le Kremlin fait remarquer que les États-Unis d'Amérique et l'OTAN ont ignoré carrément les préoccupations de la Russie. Et puis, le président ukrainien a appelé ce vendredi des Occidentaux à ne pas susciter la panique autour des tensions avec la Russie accusée de préparer l'attaque contre l'Ukraine, s'est confiant aux médias étrangers. Volodymyr Zelensky a prévenu aujourd'hui que cette panique est de nature à déstabiliser l'économie de l'ex-république soviétique.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Abdulaziz Tioye affirme que dans son rapport annuel publié hier à Kinshasa, son bureau a documenté en 2021 près de 7000 violations et atteintes aux droits de l'homme en RDC. Il s'entretient avec Honoré Missenga Kalala.
Abdulaziz Tioye, bonjour.
Bonjour.
Le Bureau conjoint a publié jeudi 27 janvier le rapport 2021 sur la situation des droits de l'homme en RDC. Quels sont les types de violations et atteintes documentées dans ce rapport?
En 2021, le Bureau a documenté 6989 violations des droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, ce qui représente une moyenne de 582 violations par mois. Il s'agit d'une diminution de près de 12% par rapport à l'année 2020, soit une tendance inverse à celle observée l'année précédente, qui avait enregistré une augmentation de 21%. Les types de violations les plus rapportées au cours de l'année écoulée sont les violations du droit à la vie, pour 1335 violations qui ont fait 3012 victimes. Les violations et atteintes au droit à la liberté et à la sécurité de la personne. Également, les violations et atteintes au droit à l'intégrité physique. Mais aussi les violences sexuelles, y compris celles liées au conflit. Contre 528 femmes, 226 enfants et 8 hommes. Suivent les violations du droit à la propriété. Ensuite, les violations en lien avec l'espace démocratique pour lesquelles nous avons enregistré 472 cas avec un impact négatif de l'état de siège sur l'espace démocratique, évidemment.
Alors, qui sont les auteurs de ces violations et atteintes aux droits de l'homme?
Parmi les auteurs par catégorie, les agents de l'État, évidemment, notamment dans les provinces affectées par les conflits, où nous avons des militaires, les agents de la PNC, de l'ANR et de plus en plus des autorités provinciales. C'est une tendance que j'avais soulignée l'année dernière, mais qui se poursuit et tend de plus en plus à se répéter. Vous avez aujourd'hui beaucoup de jeunes activistes de la société civile, notamment les activistes de la Lucha, qui sont arrêtés, détenus en nombre assez important. Certains condamnés à des peines assez sévères, ce qui pose un peu problème. Il en va de même aussi pour des activistes en Bandaka, également dans le Sud Kivu et ailleurs. Il y a aussi parmi les auteurs les membres des groupes armés. Les plus importants, comme vous le savez, évidemment, ce sont les Nyatura, suivis des ADF. Les Nyatura posent un sérieux problème, notamment dans le Nord Kivu. Les Nyatura sont suivis des ADF et divers groupes Maïmaï, dont les APCLS, et également les NDC, rénovés, celles qui sont restées sur le terrain aussi, mais également les Maïmaï Mazembe au Nord Kivu. En Ituri, nous avons la CODECO qui pose de sérieux problèmes. Vous avez suivi les attaques répétées contre les camps de déplacés, mais également contre les casques bleus des Nations Unies, mais aussi les attaques répétées qui tendent beaucoup plus à s'étendre à beaucoup de zones. Nous avons aussi le groupe armé Zaïre ainsi que le FPIC en Ituri, sans oublier les ADF qui viennent immédiatement après les Nyatura en termes d'atteinte aux droits de l'homme, aussi bien au Nord Kivu qu'en Ituri, ainsi que les Raia Mutomboki dans le Sud Kivu, les Gouminons, les Tuganero, les Maïmaï Malaika, les Maïmaï Yakutumba, au sud Kivu, et principalement aussi les Maïmaï Apanapale dans le Tanganyika, qui posent de sérieux problèmes à la protection des civils et l'intégrité physique, mais aussi à la vie des paisibles citoyens congolais.
Oui, directeur, vous êtes étendu longuement sur la situation qui prévaut dans les zones en conflit. Qu'est-ce qu'on peut retenir des zones de l'Ouest en termes de violations et atteintes aux droits de l'homme?
Dans les zones qui ne sont pas affectées par les conflits, ce que nous avons le plus noté, ce sont ce qu'on appelle des atteintes, des violations du droit à la liberté et à la sécurité, notamment des arrestations et détentions arbitraires qui, comme vous le savez, pour beaucoup sont liées à l'allégeance démocratique. Notamment, vous avez des arrestations de membres de la société civile, comme je l'ai indiqué, pour les premières zones affectées par le conflit. Et d'ailleurs, si vous avez bien regardé, il y a une amélioration générale hein, dans les provinces non affectées par le conflit pour ce qui est des droits de l'homme, mais nous avons le Lua là-bas qui sort de l'eau et la province de la Tchopo ainsi que celle du Kwilu où nous avons effectivement noté beaucoup de restrictions et de violations du droit à la liberté et à la sécurité. Il y a eu aussi, je ne peux pas ne pas le souligner, des atteintes graves au droit à la vie suite à un usage excessif de la force par des officiers de maintien de l'ordre, notamment de la paix. C'est quelquefois des militaires. Certains ont fait l'objet évidemment d'une procédure de flagrance, mais cette tendance est très très inquiétante et continue d'attirer l'attention et doit définitivement recevoir une attention et un traitement approprié.
On dit souvent que Kinshasa est le miroir de la RDC. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Kinshasa particulièrement?
À Kinshasa, évidemment, il y a eu des velléités de répression de ces manifestations. Évidemment, je pense que l'autorité a bien compris l'importance d'ouvrir l'espace pour favoriser une expression libre des droits et libertés. Il y va de la paix et de la stabilité sociale. C'est extrêmement important et c'est un indicateur très important pour les autorités. Encore une fois, je renvoie tout le monde aux engagements pris par le président Tshisekedi. Il est important que les agents de l'État aident et essaient de s'aligner sur ces engagements-là qui ont été pris, en essayant, dans la mesure du possible, de s'assurer effectivement de l'exercice libre des droits et libertés.
Directeur Abdoul Aziz Tchoy, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de Radio Kapi, le directeur du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme. Abdoulaziz Tchoye était interrogé par Honoré Missenga Kalala. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir écouté. Retrouvez-les sur www.radiokapi.net. Infiniment merci à Richard Junior Kamunga et Ben Kabamba qui m'ont accompagné.